Bienvenue chez Malo, avec Jeannick Onctil et ses invités.
Salut tout le monde! Bienvenue chez Malo encore une fois cette semaine. Bon, je vais me repeigner un peu, ça aurait dû être fait dès le départ. Très content de vous avoir ici. Très content de vous avoir ici encore une fois. Merci d'être à l'écoute. Je vous rappelle que si c'est une première pour vous, d'abord, je vous salue. Je veux saluer les gens qui viennent d'arriver. Sébastien Fort est là. Bonjour Sébastien. Karine Veilleux également. Je vais couper le son, voilà. Alors, merci de votre présence. Même ma petite sœur qui est là. J'ai Karine Veilleux également. Karine, est-ce que tu es habillée en mauve? C'est ce que je veux savoir. Jean-Luc Beauchemin qui est ici. Bonjour, monsieur le maire. Alors, Jean-Luc Beauchemin qui est le maire de Saint-Denis. Dites-moi pas que les politiciens vont recommencer à m'écouter. Toujours agréable. Le maire de ma municipalité, le maire de chez nous. Je suis un gars de Saint-Denis de Brampton. Quelle semaine vous avez passé? Quelle sorte de semaine vous avez passé? Je vous le dis, là, c'est la semaine où il a fait le plus beau depuis le début de l'année 2020. Je suis allé marcher tous les matins. Beau soleil, ciel bleu, pas de nuages. Dire que la semaine dernière, souvenez-vous, là, la semaine dernière, vendredi, je pense, je m'en vais chercher un gâteau au chocolat. C'était la fête des mères. Je suis allé chercher un gâteau keto à la pâtisserie Duquette à Sherbrooke. Alors, ceux qui ne viennent pas de la région, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'était un délice. Mais quand je suis arrivé à la pâtisserie, il neigeait à plein ciel. Là. Il neigeait à plein ciel. Mon Dieu, on était autour du 9 mai. Et là, j'ai dit au propriétaire François Duquette, je pense que je vais te prendre une bûche de Noël à la place. Ça n'avait pas de bon sens. Il faisait froid, il ventait, il neigeait. Mais là, le vent tournait. C'est encore pas si chaud. Première journée chaude aujourd'hui, mais quand même, le soleil, on a besoin de lumière. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment extraordinaire. Bon, Karine Veilleux qui m'écrit qu'elle est habillée en mauve. Je savais, elle est toujours habillée en mauve, celle-là, on la connaît. Bonjour, M. Derry-Saint-Cyr, qui est fidèle au rendez-vous, Guillaume Derry-Saint-Cyr, que je me rappelle de son nom parce que je le vois sur l'écran. C'est Jésus, son vrai nom. Quand on a un bug Internet, c'est Jésus. Alors, très content de vous avoir ici. Ça défile. Jonathan Savard qui est là. Alors, j'ai d'anciens étudiants du cours Prendre la parole en public qui sont là. Alors, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne semaine. Ah, oh, ma petite soeur qui a un coup de soleil en faisant la lecture dehors, ben bon pour toi. C'est mérité. Mais j'espère que le livre était bon, au moins. J'espère que c'était agréable. Alors, bonjour Jonathan qui est là. Je l'ai déjà mentionné. C'est le fun. Vous avez remarqué qu'il me manque ma complice, Carole Langlois. Ben oui, c'est une grande nouveauté cette semaine. Je vais diriger l'émission. Quand vous allez écrire des commentaires, je vais les voir directement. Je salue Carole. Je veux vous en parler pendant 30 secondes pour vous dire que Carole Langlois, si vous tapez sur Facebook son nom, vous allez tomber sur elle. C'est une adjointe virtuelle. C'est une perle. Elle est encore dans ma vie pour longtemps parce qu'elle vient me déboguer sans arrêt. Elle me donne de bonnes idées. C'est elle qui met tous les épisodes de Bienvenue chez Malo sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller aimer la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Plus on est de fous, plus on rit. Aimez ça également en audio sur Spotify, sur la plateforme de Balado Québec. Alors, elle fait vraiment des miracles et elle m'aide dans la technologie, ce qui n'est pas ma force. Ce qui n'est pas ma force. On a une belle émission aujourd'hui. Salut Marianne Lachance. Marianne Lachance qui a fait une montagne de crêpes aujourd'hui. Je l'ai vue sur Facebook. C'est de la provocation. Provocation. C'est sûr que je vais en avoir une de ces crêpes-là dans ma bouche avec du sirop. C'est clair, net et précis. Ça fait engraisser le sirop, mais je marche 50 km. J'ai le droit à ça. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a des gens inspirants. D'habitude, je vous les présente, puis après, je les intègre dans la conversation. Mais là, on va faire le contraire. Je vais les intégrer et je vais vous les présenter, ces gens que j'aime énormément. Alors, je les admets, ils sont à l'heure. Je leur avais dit que je les intégrerais à 18h03, il est 18h04. Jérémy Parent, bonjour.
Hello, hello.
Comment ça va?
Merveilleusement bien, toi?
Oui, alors Patricia Desorcy, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oh, la belle voix, mon Dieu Seigneur. Vous n'avez pas entendu le thème de l'émission, je ne l'ai pas mis. C'est compliqué, je suis un gars, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Sur notre chaîne YouTube, quand vous allez voir les archives des émissions, vous entendez le thème de l'émission avec une superbe voix. C'est la voix de Patricia Desorcy. C'est mon amie à qui j'ai envoyé cette idée-là et 15 minutes après, elle m'a renvoyé l'audio et c'était exactement ce que je voulais en 3 versions. Alors, merci à vous deux d'être là.
Grand plaisir.
J'ai dit que je vous présenterai après vous avoir intégré. Lorsque j'invite des gens sur une émission ensemble, j'essaie de voir quels sont les points communs de ces gens-là. Bien, les points communs de ces deux-là, c'est qu'ils font rayonner des gens. Ils les divertissent, ils les font rayonner, ils mettent le projecteur sur les autres la plupart du temps. Ils sont très à l'écoute. Les gens les adoptent pour leur partager des choses très souvent personnelles. Alors, ils absorbent, absorbent, absorbent. Et je ne sais pas pour vous, mais en ces temps de crise ou de situation pas banale, bien, ces gens-là sont encore plus sollicités qu'ils l'étaient déjà, et ils l'étaient déjà énormément. Alors, j'avais le goût de vous les présenter cette semaine. D'abord, Jérémy Parent, auteur, conférencier. Ça, c'est dans ta nouvelle vie.
Effectivement.
Auparavant, c'était une grosse huile. Là. On dit ça, des grosses huiles. Là. Ça faisait partie du gratin, Jérémy Parent. Il a été directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Magog Offord. Il a été directeur de la Fête des vendanges, entre autres. Et pas plus tard que l'année dernière, il était dans la direction également de Bleu Lavande. Là, beaucoup de gens, il y a des gens d'un peu partout au Québec qui nous écoutent. Vous connaissez Bleu Lavande parce que les touristes se déplaçaient en masse. Alors, c'est ce que tu faisais auparavant. Tu rentrais dans une organisation, tu la relevais ou la grossissais, tu l'amenais ailleurs et 3 ans après, tu étais tanné et tu décidais d'aller le faire pour une autre organisation. Tu étais un gars qui était toujours dans l'action.
Écoute, c'est une des plus belles descriptions qu'on a faites de mon parcours.
Pour vrai?
C'est, oui, puis et Dieu sait que tu m'en avais fait une belle à mon lancement au mois de novembre, mais celle-là, il était très, très bien synthétisé. Alors, effectivement, des mandats, j'aime ça quand ça va mal, quand c'est tout croche. Je me donne toujours 3 ans parce que c'est énormément d'énergie. En fait, je dis je me donne, mais là, il faut que je l'assume. Hein. Je donnais 3 ans. Et c'est ça. Et en fait, tu disais jusqu'à l'année dernière, mais mon mandat chez Bleu Lavande s'est terminé en février. Moment charnière auquel j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, de voler de mes propres ailes. Et comme dans la vie, ben, on aime faire les choses différemment des autres, ben, je l'ai fait pour être en plein milieu de la crise au moment où tout ça allait se passer.
C'est exactement ça. On va revenir à ta nouvelle vie un petit peu plus tard. Je veux présenter ma belle complice. Ma belle complice parce que on a une grande histoire ensemble. On s'est connus en 2011, alors qu'à un moment donné, elle m'a appelé pour s'inscrire à la formation « L'art de prendre la parole en public ». Dès le premier cours, elle ne s'est pas présentée. Et puis, elle m'a laissé un long message sur ma boîte vocale sur la morphine pour me dire qu'elle avait un kyste à un ovaire. Moi, je ne la connaissais pas. Je me disais, j'en ai entendu des excuses dans ma vie pour ne pas se présenter un cours. Mais celle-là, ça dépasse tout. Vous savez quoi? C'était vrai. Alors, elle est arrivée la semaine suivante. Patricia Desorcy, là, quand elle est dans notre cercle d'amis, qu'on l'invite à un souper, on le sait qu'elle ne sera pas à l'heure. On le sait. Elle a pris ça pour acquis. Quand elle arrive... et là, elle devient le centre d'attention, pas parce qu'elle veut, mais mon Dieu qu'elle est drôle. Elle est à contre-courant des gens que je connais du monde des médias qui sont plates comme la pluie une fois chez eux. Elle est tout le temps pareille. Donc, elle arrive, elle l'anime, on rit comme des fous, ça n'a pas de bon sens, elle est à jeun, puis elle est vraiment drôle. Alors, je l'ai connue en 2011. Elle s'est inscrite à mon cours et quand elle est arrivée, je lui ai dit « Va enregistrer une réclame publicitaire dans la cabine pour rattraper le cours de la semaine dernière. » Les autres étudiants étaient autour de la table. Une des premières sessions que j'ai données dans mes locaux que j'occupe présentement. lorsqu'elle a commencé à enregistrer, c'est pas insonorisé, hein? Tout le monde a arrêté de parler, moi inclus, et je me suis dit, oh, OK, elle va gagner sa vie avec ça, c'est clair, net et précis. À ce moment-là, tu pourras raconter dans quelle situation tu étais. Tu as pris tes dernières scènes pour te payer ce cours-là, tu n'avais rien et il n'y avait pas de radio dans ta localité, tu étais zéro connu. Et quelques années plus tard, tu es, je dis toujours, la Oprah de la région de Coaticook. Tu travailles à la radio Sing FM à Coaticook, mais tu es le pilier de cette radio-là. Alors, c'est un peu ça, l'histoire de ta vie. Tu as découvert ta mission de vie à un moment donné et tu n'as plus jamais arrêté.
Non. Non. Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends bien. On a une amie en commun qui vient d'écrire « On l'aime assez, une belle femme authentique et savoureuse. » Alors, c'est Marianne Lachance.
C'est ça, je t'ai pour dire, c'est Marianne.
Je salue tous les participants. Michael Nadeau, camionneur de luxe. Audrey Hood, qui est ma fille, en fait, ma belle-fille. Marilyn Lalonde, Sonia Quirion. Sonia Dupont, notre une belle complice de Bienvenue chez Malo, qui a fait une chronique livre cette semaine. Bravo à tout le monde. Bonjour Mélanie Godbout, Claude Quirion également. Alors, bonjour. Est-ce que ça résume un petit peu ton parcours?
Eh là là, oui, ça résume pas mal bien, je te dirais. Oui, on a eu une histoire, un début d'histoire. En tout cas, moi, mon passage à ton école, ça a changé mon parcours, vraiment. Oui, ça l'a changé dans le sens que je suis arrivée là, j'avais mon estime de moi-même à moins 1000. Je rappelle aux gens que ben, je venais de me séparer, ça n'avait pas été évident. J'avais plus d'emploi parce que mon emploi, quand j'ai quitté la maison, ben, j'avais un service de garde à la maison. Ça veut dire qu'en sortant du milieu, bon, j'avais plus d'emploi. Et là, de fil en aiguille, il a fallu que je fasse une demande d'aide sociale. Ça, c'est une des affaires qui a été la plus difficile à faire dans mon parcours, vraiment.
Oui, comprends.
Ah non, je donnais mon nom pour faire des couronnes de sapin et c'était un moment de l'année où, en tout cas, c'était très tranquille. Et justement, j'ai abouti chez ma tante qui a accepté vraiment de nous héberger, là, mon fils et moi. Puis à un moment donné, une histoire, tu sais, des histoires pas possibles, là, comme c'est l'histoire de ma vie. Là, il m'arrive toujours des affaires pas possibles. On est à Saint-Edwige, dans un petit village où l'Internet, on le craint.
L'Internet à pédale.
Oh my God! Et je suis sur Facebook et là, le fameux petit signe, le search, là, ça searchait longtemps et ça l'a gelé devant. Moi, j'avais aucune idée t'étais qui. Ça l'a vraiment gelé devant communication Jean Malo. Et là, je me mets à lire. Bon, j'ai rien que ça à faire.
C'est pas gelé. Le choix, l'écran figé.
C'est gelé. Et là, depuis je ne sais pas combien de temps, il y a quelque chose en dedans. J'ai eu comme l'appel. Fait que c'est ça. Fait que là, je parle de ça à ma tante. J'ai dit, my God, j'ai dit, là, faut que tu viennes voir ça. J'ai dit, ça m'intéresse. Ben, elle dit, ben, appelle. Et là, j'appelle. Mais là, moi, je suis sur l'aide sociale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon compte de banque, j'avais gardé des sous parce que quand on est travailleur autonome, bon, il faut prévoir pour la fin de l'année, pour les impôts. Fait qu'il me restait, pour vrai, là, je vais le dire en nombre, il me restait, c'était 1 600 $ dans mon compte de banque. Et je me souviens, j'ai tout gamblé. Je t'avais appelé, j'ai dit, oh mon Dieu, je ne peux pas me permettre ça. J'ai dit, là, je me disais, un coup que j'ai payé le cours, puis là, j'étais en train, dans tout cas, de vouloir me racheter un ordinateur pour pouvoir refaire, animer des soirées, là, parce que j'anime des mariages, ça fait 22 ans. Mais là, je n'avais plus rien, là, plus rien. Alors, j'ai tout gamblé. Et c'est le cas de le dire, j'ai gamblé. J'ai dit, je prends le cours, je m'achète un laptop, il me restait, je ne sais pas, 100$, 200$ dans mon compte. Et je me souviens qu'après le tout premier cours, je suis revenue chez ma tante, les billes. Mère! Tante! J'ai dit, j'ai toujours détesté l'école, j'haïssais l'école, j'allais à l'école pour les soirées artistiques, tout ce qui était artistique, j'aimais les sports. Il n'y a rien, on dirait, qui m'accrochait, qui... On dirait que je me voyais pas dans l'avenir. J'ai dit à ma tante, pour une première fois de ma vie, j'irai à l'université dans ce cours-là. Je ferais 10 ans d'études là-dedans.
Vraiment, wow! Et là, ça, C'est un moment de grâce. Tu viens de décrire ce que j'avais vécu à peu près 8 ans plus tôt quand je suis entré à cette école-là. Tu décris ça, j'ai l'impression que tu parles de moi. Alors là, je te revoyais là-dedans. Je suis en train d'écrire un roman parce que les gens me disent « Pourquoi tu n'écris pas un livre sur parler en public? Parce que c'est plate pour mourir. Écris ça, il faut que tu le vives. » Mais je vais écrire un roman sur les gens qui sont venus vivre, qui ont émergé. Et un des personnages, c'est pas le même nom, rien, mais est inspiré directement de Patricia Desorcy parce que c'est un success story. C'est une histoire incroyable parce que quand tu as terminé le cours, tu étais comme moi. J'ai faim, je vais en manger, je vais en faire de la com, mais comment on fait? On commence où? On fait quoi? On est zéro connu. Mais vous savez quoi? Je vous l'ai répété souvent à cette émission-là. Quand vous êtes à votre place, la vie vous regarde et vous fait un chèque. Un chèque, c'est quoi? C'est une job, un contrat, une pige. Et toi, c'est arrivé rapidement parce que à quoi tu coûtes? Une radio coopérative qui s'est implantée là, voyons, c'était à peu près impossible que ça arrive, mais c'est arrivé. Et là, tu n'es plus jamais sorti.
Non, on est venu vraiment, mais tu sais, on m'a demandé à un moment donné dans un bar à Quatico, tu sais, Patricia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Eh hey boy! Tu sais, tu es sur l'aide sociale, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'avais aucune idée. Je me disais, tu sais, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai un secondaire 3 de terminé. Fait que pour moi, faire de la radio, c'était impossible. Je me disais, bon, il faut aller suivre notre cours. Pour moi, il fallait vraiment suivre son cours en communication là-dedans. Puis jamais, au grand jamais, je t'ai dit, quelqu'un m'aurait dit, tu vas travailler à la radio dans ton patelin. J'aurais jamais cru ça. Mais c'est vraiment, tu sais, toi, tu as su voir en moi ce que moi-même, je ne voyais plus.
Ouais, et avant ça, Malo l'avait fait. Quand on a une émission qui s'appelle Bienvenue chez Malo. Malo, là, j'ai pas pris ça dans les airs. Il s'appelle Jean Malo, c'est un mentor, ça a été le mien. Mais après ça, on passe au suivant. Et ça, c'est une belle histoire. Puis croyez-le ou non, quelques années plus tard, alors là, ça, c'est arrivé en 2011, quelque part en 2018. J'ai appelé Patricia, j'avais laissé tomber la radio, je commentais l'actualité tous les matins à la radio et j'en avais assez de chialer à la radio. J'avais le goût d'avoir une émission, une demi-heure positive chaque semaine. J'ai contacté Patricia à la fête du travail. Est-ce que tu me ferais une place sur ton émission? Hey. Donc là, le prof qui demande à l'élève, peux-tu y aller? Et tout de suite, ça a pris comme 20 minutes le temps de rejoindre le patron de la station. Ouais. Et on a passé, je veux dire, 15-18 mois à faire ça. La demi-heure à la vie, c'était du gros bonheur à chaque semaine. Le vendredi, on faisait ça. C'était vraiment agréable. Alors, tu sais, l'ascenseur revient. Il y a une espèce de loi du retour. En tout cas, c'était super. Tu as été dans ma vie tout le temps depuis ce temps-là.
Oui, tout le temps.
Vraiment. Alors, Jérémy Parent, une autre chose qui a un peu en commun avec Patricia, c'est qu'à un moment donné, un bagage qui était quand même pas évident. Là, j'avais une copie de ton livre « Sortir de l'ombre et briller » où tu racontes un peu ta vie, quand ta jeunesse, ton enfance, l'adolescence, où avec tes parents, vous déménagiez souvent. Vous n'étiez pas riche. Alors, ça a été une vie qui était pas facile, mais à un moment donné, toi, tu as converti ça en opportunité et tu as développé une capacité d'adaptation incroyable.
Oui. Ouais. Quand le parcours n'est pas linéaire, quand il n'est pas tracé, il y a des gens dans la vie qui nous écoutent actuellement et c'est leur cas. Fait un temps où je les ai beaucoup enviés. Maintenant, je comprends que le mien, ben, c'était juste pas celui-là. Effectivement, une enfance, écoute, honnêtement, il y a un chapitre du livre qui s'appelle « Bonheur en quarantaine » parce que du côté de ma mère, on vivait des trucs incroyables. Je veux dire, il y a des sitcoms, il y a des téléromans qui se font, puis on se dit, mais ça se peut pas, mais nous, on avait tout ça.
Où les gens se poignardent un peu dans le dos, il y a énormément de rancœur, de haine. On sentait que c'était excessivement lourd.
Oui, c'était lourd, c'était costaud. Par contre, mon père, ma mère, mon frère et moi, toutes les fois où on revenait, toutes les fois où on se réinstallait à la maison, ben en fait, c'est ça, on vivait notre bonheur en quarantaine. On était bien. Mes parents se sont érigés en bouclier dans tout ça. Mais ça a fait qu'on a déménagé. Écoute, je pense que c'est 12 fois qu'on a déménagé là, du moment où je me suis pointé le bout du nez puis j'ai fait mon entrée au secondaire. On bougeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, sans jamais pouvoir s'ancrer, sans jamais pouvoir lier d'amitié, À un moment donné, j'ai développé cette aptitude-là à rapidement entrer en contact avec les gens puis aller vers les bonnes personnes. À un moment donné, quand on sait que notre temps est compté, on ne peut pas faire à semblant.
En fait, quand tu te doutes que tu vas être 6 mois à un endroit où tu finiras même pas l'année scolaire ou peu importe, alors tu développes une espèce de capacité. Il y en a qui se seraient écrasés, qui auraient été asociales, qui auraient été hyper délinquants. Tout a fait d'autres choix, en fait.
Oui, je ne sais pas, en toute honnêteté, d'où ça vient, hein, cette histoire-là. Quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, je vais m'offrir une psychanalyse en même temps. ça m'a permis de révéler des trucs. Maintenant, d'où ça vient, je ne sais pas. Mais oui, j'ai fait ce choix-là. Puis, de fil en aiguille, Patricia disait, j'ai un secondaire 3. De mon côté, je viens d'une famille où les deux branches familiales, les gens n'avaient jamais été à l'université. Alors, rapidement, dans ma tête de petit cul, il fallait que je le fasse, ce move-là. Vouloir défendre la veuve et l'orphelin. T'sais, j'ai voulu faire mêler un métier, j'ai voulu être gardien de but, j'ai voulu être astronaute. Au début, je pensais que je voulais être astronaute parce que c'est les étoiles qui m'intéressaient. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, c'est juste que si j'avais pu partir à ce moment-là, quand j'étais titu dans une fusée avec mon frère et mes parents, le plus loin possible de où on se trouvait, dans ma tête, on aurait été bien, on aurait été encore mieux. J'ai voulu devenir psychologue parce que tu l'as dit. Et tu sais, Patricia, je la connaissais pas, mais je suis déjà en amour avec. Mais tu sais, je suis pas le premier, je te ferai pas une déclaration ce soir. Mais t'es incroyable. Alors, c'est ça, les gens venaient naturellement me jaser. Et je me disais, dans cette relation d'aide-là, peut-être que psychologue va être un bon choix. Jusqu'à ce qu'arrive une injustice à un moment donné dans un boulot que ma mère occupait où elle était congédiée illégalement. Ma mère était diabétique, a fait une crise de diabète dans les toilettes. Les patrons l'ont vu, l'ont sorti, l'ont congédié. On a beau emmener la cause en cours, elle a perdu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas par ma seule écoute que je vais faire une différence dans la vie des gens, je vais les défendre. Et c'est là où le droit s'est imposé dans ma vie.
Tu t'es inscrit en droit à l'université.
Je me suis inscrit à l'université en droit. Je suis arrivé gonflé à bloc. Et ça a duré, écoute, honnêtement, la lune de miel a duré 3 semaines, 1 mois.
Ah oui?
Oui, je suis quelqu'un qui aime parler. J'aime défendre. J'aime émettre des opinions. Maintenant, toute la charge de travail, la lecture, la jurisprudence, ça ne m'intéressait pas. Et honnêtement, le choc de valeur a été énorme. Parce que je vais à l'école, mais je rencontre aussi des gens parce que je veux comprendre le métier vers lequel je m'en vais. Et de voir à quel point c'est... En tout cas, pour moi, c'était pas jouable au niveau des valeurs. Les espèces de compromis, défendre n'est pas fin, devoir prendre les cas qui arrivent sur ton bureau, tout ça, je me suis dit non, puis de la mort.
Alors, ce qui revenait, c'était défendre, mais tu sais, on avait des orienteurs, mais qui creusaient pas tant que ça. Tu remplissais des questionnaires, puis de toute façon, on vient d'une époque, là, je veux pas qu'on se plaigne, mais peu importe ce qu'on choisissait, il y avait pas de job. Tu sais, génération X, on disait, ce sera pas payant. Alors, mon Dieu, tu ressortais de là, moi, je voulais être journaliste, puis on me décourageait complètement. Tu dis, ah, tabarouette, ça sera pas drôle. Mais tu as cheminé, puis tu as souvent décroché des postes. Moi, j'ai lu le livre parce que tu m'as amené le manuscrit avant de le publier, tu sais, il faut le dire, en disant, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, lui, il se rappelait du gars qui commentait l'actualité, là, qui tapait là, sur les gens. Il s'est dit, en tout cas, lui, il va me donner leur juste. Il va lire le livre, puis si c'est pas bon, il va me le dire. Là, je trouvais ça très drôle. Et je réalise aujourd'hui à quel point ça prend beaucoup d'humilité pour donner le manuscrit à quelqu'un et dire, écoute, je vais recevoir tes commentaires. Et moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ton parcours hyper intéressant parce que je disais, ce gars-là, il a postulé pour des jobs. Il n'y avait pas pantoute le bagage pour ça, mais on voyait l'espèce de rassembleur. Les gens, je pense qu'ils reconnaissaient ça. Puis dès que tu entrais en poste, ça paraissait. Tu sais, toutes sortes de postes, mais partout où vous êtes déménagé dans le coin de Sorel à un moment donné, après ça, on s'en vient dans la région d'Orford, Magog, Manfred Magog. Et Dieu merci, t'es resté ici. Là, ça fait quand même un certain nombre d'années que t'es là.
Oui, c'est la première fois. Hein? Ça va faire... en fait, c'est ce qu'on se dit, Julie et moi, ma conjointe et moi, là, on est arrivés en 2010 dans la région, fait que ça fait 10 ans. je pensais jamais vivre ça, honnêtement, parce que même à l'âge adulte, quand j'ai rencontré ma femme, ben, à un moment donné, on s'est remis à répéter les mêmes scénarios. Je suis habitué de bouger, moi, dans la vie. Fait qu'aux 3 ans, on déménageait. T'sais, je prenais des mandats de 3 ans, mais on déménageait aussi. On changeait de région.
Carrément, wow. Pour recommencer. Ouais. Mais toi, les pantoufles confortables, tu n'aimes pas ça? Parce que des fois, c'est le fun aussi, là, tu sais, de ne pas toujours casser des souliers en cuir. C'est un peu l'image que j'ai. T'sais. Là, il est confortable dans une paire de souliers. C'est comme rendu des pantoufles trop confortable. On s'en
c'est comme
va.
Des patterns aussi.
Hey, ben oui, ben
t'as
oui,
connu dis... ça. C'est oui. Ça que t'as connu.
Oui,
et, hey, c'est je
vrai.
Me reconnais beaucoup. Jérémy, là, ça m'épate. C'est drôle parce que là, tu disais que tu voulais devenir psychologue et je voulais ça. Ta soif de justice. J'ai dit, oh my God, je comprends. Le c'est... parcours, bravo.
C'est incroyable. Et d'ailleurs, des gens qui écrivent, Christian Alain, que tu connais, prof d'art martiaux, dit très sympathique, ça, Jérémy. Ma petite soeur qui écrit, ben, deux invités très inspirants en lettres majuscules. C'est vrai, effectivement, et ça revient beaucoup. Et, vous avez un passé, un bagage, beaucoup d'épreuves. Est-ce que, dans ce qu'on vit actuellement, vous avez plus d'anticorps face à ce qu'on reçoit? Parce que ceux qui sont habitués d'en manger des coups, est-ce que finalement, on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous qui sont en panique alors que nous, on regarde ça? Ouais, mais tu sais, j'ai déjà tout perdu dans la vie. Il m'est déjà arrivé telle chose. Est-ce que c'est un peu ça?
Je vais te laisser aller, Pat, les dames d'abord. Puis,
Ah, les dames, et la laïe.
Ben,
pour être honnête, j'ai commencer le début de la crise avec une force d'adrénaline. On est en médias et là, ça tombe comme une bombe. Et je me souviens, moi, la journée qu'ils ont annoncé qu'ils fermaient tous les commerces, je suis partie en arrière de la station, je suis allée fumer une cigarette et j'ai pété, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer, mais là, il fallait que j'entre en onde. On dirait là que c'était too much, on dirait que c'était irréel. Puis je me disais, là, reprends-toi parce que tu t'en vas en onde. Et je veux dire, les auditeurs ne veulent pas nécessairement quelqu'un qui est tout qui est à terre, mais en même temps, mes auditeurs le savent, je ne suis pas capable de faker. J'ai dit, on vit de quoi qui est historique. Puis je m'excuse, là, mais je suis déboussolée. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vivent ça comme ça. Souvent chez moi la fin de semaine quand j'avais pas mon fils parce que je suis toute seule chez moi pleurer sur le divan non-stop
right.
Non-stop, je m'ennuie, moi je suis une fille d'humain, je suis une fille de regard, je suis une fille de chaleur, je suis une fille de câlin et je me sentais, je suis une ancienne toxicomane, je me sentais en sevrage, c'est pas des blagues,
okay.
C'est wow. En plein comme ça que je me sentais.
Ouais.
Je me sentais privée de liberté, chose pour laquelle je me suis battue toute ma vie. Et ça venait repaiser sur des bébites que tu penses qui sont réglées. Finalement, tu dis la solitude, se retrouver face à soi-même, puis écouter ton dedans qui te parle beaucoup trop. Là, tu essaies de combler. Là, je me disais, dans une autre vie, j'aurais eu une soif international, comme je disais.
Ouais.
Parce que ça aussi, là, je me suis rendu compte, je dis, oh boy, OK, que de régler ça à jeun, d'affronter ça à jeun, toute l'anxiété. Qui
hey, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Mais as-tu pensé pour quelqu'un, et c'est drôle, hein, parce que la SAQ, la SQDC ont été classés services essentiels.
Service essentiel. Hein?
C'est pas pour rien, là. C'est parce que tu as un paquet de travailleurs sociaux qui ne voulaient pas avoir à gérer, et je comprends ça, là. Uh-huh. Je comprends ça. Il y a des gens qui ont beaucoup décrié ça, mais tu veux pas gérer en plus. Plein de gens qui sont en manque et qui entrent dans cet état. Mais toi, tu as affronté ça. Pas de rechute, parce que combien d'années de sobriété?
Ça l'a fait 6 ans le 13 avril.
Vraiment. Vraiment. Et dans une épreuve comme ça. Mais avais-tu plus d'outils que tu n'avais pas avant? Parce que, tu sais, quand on traverse une désintox, quand on fait beaucoup de cheminement sur soi-même, on se ramène.
C'est
peut-être?
Au niveau, je pense, de la résilience. Je pense que quand on a surmonté des gros traumatismes, on développe des outils de survie. On n'est pas sans faille, on n'est pas plus fort. Mais je pense qu'on peut arriver à évacuer peut-être l'état du moment présent, peut-être plus rapidement et être capable de rebondir et dire, garde. Moi, mon truc, là, c'était, Jeannette et Jérémy, je me disais, là, regarde, ton auto est clair, OK? T'as encore ta job, t'as du linge sur le dos, t'ouvres la chambelure, il y a de l'eau qui coule, tu manges. Eh bien, je mangeais mes émotions au début, oui. Et...
C'est drôle que toi, tu peux manger tes émotions, ça paraît jamais.
Mais non, mais c'est parce que je fais de l'anxiété, pauvre toi.
Ah c'est, oui, c'est ça, c'est les nerfs qui... C'est les nerfs qui te grugent par en dedans, parce que, Dieu! OK, je comprends.
Mais...
Ouais, c'est vrai. Tu me parlais, j'ai du linge sur le dos, on a de l'eau. T'es une fille originaire du Honduras. Tu as été adoptée bébé, mais t'as retrouvé ta mère il y a quelques années. Bon, ta mère qui est décédée depuis, mais t'es allée au Honduras. Ça ramène-tu un peu les choses à bonne place? De dire, regarde, nous autres, là, tout ça, on est payé pour rester chez nous. Là. Si on travaille pas, on est payé pour rester chez nous.
Ah non, mais c'est sûr que ça m'aide tellement, moi, d'avoir pu... avoir été dans mon pays d'origine, de voir, c'est la pauvreté extrême, la corruption. Les gens, ça se promène avec des machettes, des mitraillettes. Je veux dire, tu sais, j'ai pas peur de manger au restaurant ici. Là-bas, tu vas manger au restaurant, tu as des gardes armés, des mitraillettes, là, ils rigolent pas, là. Je veux dire, tu sais, du trafic de drogue, en veux-tu? Fait que tout ce qui est, ils n'ont pas d'eau potable, tu peux mourir, boire l'eau potable. Tu sais, l'eau. Pas potable.
Tu ouvres la chambre, tu peux mourir.
Ah non, tu ne brosses même pas les dents avec l'eau, là.
Eh hey, mon Dieu!
Fait donc... que, tu sais, là, faire mon épicerie là-bas, tu fais 1h30 de route, ton épicerie est dans une boîte de pick-up, au soleil. Je peux-tu te dire que le pollo, il marchait tout seul quand on est arrivé chez nous? Fait que, tu sais, mes autres là-bas, ils l'auraient mangé. Fait que quand j'ai apporté mon fils, j'ai amené mon fils en 2016. C'était notre cadeau de. Bien, des affaires, cadeau de 40 ans, je trouvais ça hyper important que mon fils connaisse ses origines, mais qu'il connaisse à quel point il est chanceux. Puis quand je suis revenue, j'étais en état de choc. Juste d'ouvrir la lumière, tu dis, on a de l'électricité. Oh, c'est incroyable. L'eau potable, j'ai dit, je ne sais pas combien de fois, même encore, j'ouvre l'eau, puis je dis, merci, on a de l'eau.
As-tu pensé, on nous demande de se laver les mains, là?
Ah, mais, je sais!
Mais,
je pense à ça.
Écoute, il y a des pays où ça ne se pose même pas cette question-là. Il n'y a pas un premier ministre ou un président de République qui oserait même dire ça. Là. Ça serait une insulte. Il y aurait peut-être une guerre civile après parce qu'ils n'ont pas d'eau. C'est très difficile. Alors, ça remet un peu les choses en perspective. Jérémy, je te renvoie la balle. Je vous ai demandé tout à l'heure, bon, est-ce que le fait d'avoir vécu beaucoup d'épreuves, ça te développe un peu des anticorps lorsqu'à arrive une crise, puis c'est la crise collective la plus importante qu'on a vécue. À l'âge qu'on a, là, on ne peut pas prétendre, on n'a pas vécu de guerre, on n'a pas vécu le crash de 29. Vraiment, c'est la première chose majeure. T'sais, on trouvait que la crise du verglas en 98, c'était gros. Tu dis que c'était rien du tout, finalement? Là?
Écoute, je te dirais qu'effectivement, quand on a eu la chance d'avoir un parcours qui n'était pas droit, qui n'était pas facile, bien évidemment, quand ça arrive, on est outillé, c'est sûr. Je veux dire, on est. En tout cas, je vais parler pour moi, tu sais. J'ai eu à me mettre un genou au sol, j'ai eu à me mettre deux genoux au sol, j'ai eu à me rouler en petite boule aussi à un moment donné, puis à me relever, puis à me rebâtir, puis à chaque fois recommencer. On parlait d'université tantôt. Mais, tu sais, j'ai fait une année, j'étais pas à ma place. Je suis sorti de là, j'étais complètement perdu. Puis pendant un été, j'ai roulé des tapis dans une shop de tapis à juste plus savoir ce que je devais faire puis où je m'en allais. Alors, ces moments-là, tu sais, et tu vois, là, je le disais tout à l'heure, c'est mon entreprise, j'ai décidé, j'ai été en affaires trois fois dans ma vie, c'est ma troisième fois. Les deux autres fois, je m'appuyais toujours sur des béquilles, sur d'autres personnes, en me disant toujours, je vais être le backbencher, je vais être celui qui va faire briller, mais je ne serai pas en avant. Et après tout le processus des deux livres, je m'étais dit que là, c'était mon année, c'était le temps que je sorte de ma coquille. Et avant que la crise arrive et quand j'ai annoncé mon départ chez Bleu Lavande, je venais de sortir de deux salons, de deux conférences en entreprise. Je m'en allais au Salon du livre de Paris, un petit cul, bordel. Et tu sais, je le dis parce que je ne sais pas si les gens connaissent Longueuil, mais je viens du ghetto de Longueuil. Je veux dire, je viens d'un endroit où mes parents étaient concierges. Puis quand les locataires partaient, on ne peinturait pas les murs, on enlevait le tapis parce qu'il y avait du sang à terre, tu sais. on n'était pas dans les plus beaux quartiers. Et là, de voir que tout ce chemin-là, je l'avais parcouru, puis j'allais me ramasser au Salon du livre de Paris avec 10 auteurs du Québec pendant une semaine.
Alors toi, tu te touchais au rêve, t'avais même organisé, moi j'avais trouvé ça brillant parce que si tu as une chance, tu nous montreras les livres Le gardien de phare et Sortir de l'ombre et briller parce que j'en ai pas d'exemplaire ici, mais t'avais organisé une retraite fermée, une espèce de retraite dans un phare, retraite d'écriture qui devait se dérouler à l'Action de grâce 2020. Tu sais, je trouvais que tu étais sur une belle lancée de visibilité, de reconnaissance. Oui. Tu t'es organisé un méga lancement à Magog que j'ai animé, mais c'était bien organisé. C'était, tu sais, waouh, il y avait une belle énergie. Et là, tous les salons du livre, tu sais, on a appris cette semaine qu'à Sherbrooke, ça n'aurait pas lieu. Alors, imagine Paris, etc. Tout a été annulé, ces gros événements-là. Là, t'as-tu l'impression que je prends souvent l'image du morceau de gâteau au chocolat dans la bouche, puis avant de fermer la bouche dessus, ils te l'enlèvent?
Oui. Honnêtement, là, j'ai rarement... Et je ne jouerai jamais à la victime dans ma vie, parce que je l'ai toujours dit, ce qui nous arrive, on choisit où on se retrouve, puis comment on rebondit, puis comment on répond. Mais quand l'annonce du Salon du livre, par exemple, est tombée au début, l'annulation est arrivée bien avant le confinement, là. J'avais des sous, moi, d'investir dans cette histoire-là. J'avais pris la décision que même si le Salon du livre à Paris n'avait pas lieu, je prenais l'avion pareil. Et j'irais me produire à Paris parce que pour moi, je veux dire, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie. Je suis allé à Orlando avec les enfants, puis c'était à 40 ans. Je n'avais jamais pris l'avion avant. Alors, Paris, pour moi, c'était un statement. Alors, ce que j'ai fait rapidement, c'est que sur les médias sociaux, j'ai contacté des gens qui connaissaient d'autres personnes à Paris. Et rapidement, j'ai été capable de me booker 2 conférences en entreprise, alors que je ne connaissais jamais pas où j'allais habiter, tu sais. Et j'avais l'impression, encore une fois, d'avoir réussi. Et là, est arrivé le confinement, est arrivé l'annulation, est arrivé tous les trucs. Et là, c'est ça. La lumière, c'est comme fermée. C'est comme fermée tranquillement. Ceux qui liront La petite étoile et le phare endormi, c'est ça. Je me sentais comme ma petite étoile, tu sais, qui, à un moment donné, n'avait plus la force de briller, puis qui, à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais devenir quasiment invisible, tu sais. D'avoir été autant sous la lumière, autant sous les spotlights, et tout d'un coup se retrouver dans l'ombre, un endroit que je venais de quitter.
Ouais.
Faites bordel de merde, qu'est-ce qui se passe là?
Alors, c'est presque encore plus difficile parce que là, quand tu n'as jamais connu trop la lumière, pas très grave là, ce qui t'arrive parce que tu ne connais pas d'autre chose, mais toi, là, tu avais connu autre chose.
Oui, mais tu vois. La lumière. On referme. En fait, je me suis rendu compte qu'on l'avait juste tamisé, tu sais, le temps que je puisse me reposer les yeux. Probablement que je n'étais pas prêt pour la lumière encore.
Ça t'a pris combien de temps à partir du 13 mars? Mettons, le 13 mars, là, vraiment, le Québec est sur pause. Ça arrive. Avant de passer de l'eau froide dans le visage, de dire, OK, regarde, voici quelles sont les options. Qu'est-ce que je vais faire?
En fait, honnêtement, il faudrait que je revoie mon fil d'actualité Facebook parce que ça a été mon ancrage à ce moment-là.
Okay.
Mais honnêtement, ça a dû être une journée ou deux parce que du moment où je me suis rendu compte que ça me faisait mal, je veux dire, je suis assez conscient et je me connaissais pour savoir que je suis capable d'en prendre. Et si moi qui est capable d'en prendre, j'avais un genou au sol parce que j'avais l'impression de perdre pied, je me disais, il y en a une méchante gang actuellement qui doivent battre triper et ça ne doit pas être le fun. Et dès le moment où j'ai pris conscience que, comme Patricia le disait tantôt, je suis à la maison, ça va bien, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, il y a une hypothèque à payer, l'argent ne rentre pas, je m'arrangerai bien, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Du moment où je me suis remis ça en tête, tout est devenu tellement facile, Jeannick, que je me suis mis à faire des petites pauses d'inspiration sur Facebook, tranquillement, pas vite. J'ai pu me réfugier un peu dans cette relation d'aide-là. Je me suis dit, je vais retourner là où je suis le meilleur. Et il y a un mois, en fait, hier, c'était mon quatrième live que je faisais les mercredis. Tu sais, tu nous as appris à nous mettre en danger, à prendre la caméra puis à jaser aux gens.
C'est très bon. En passant, j'ai visionné tantôt parce que je ne peux pas toujours l'écouter en direct. Puis c'est vrai pour les gens qui vont nous écouter peut-être vendredi, samedi, dimanche, puis c'est bien correct aussi. C'est bon parce que tu parlais de moi j'appelle ça le cerveau collectif, là, mais une espèce de club de grands penseurs que tu imagines des gens autour de toi, tu sais, des Barack Obama de ce monde, etc. Tu en as nommé plusieurs inspirations. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de ça parce qu'on peut écouter LCN 20 heures par jour, là, on peut faire ça, mais à un moment donné, on le sait, là, dans quelle situation on est. Je pense que les gens ont aussi besoin de se tourner vers d'autres personnes. C'est souvent vers vous Êtes-vous conscient de votre rôle? Êtes-vous conscient que les gens vous attribuent un peu ces qualités-là de on va y parler à lui, on va lui écrire, on va l'appeler, elle, à la radio? Êtes-vous un peu conscient? Toi, Jérémy?
Oui, mais je t'avouerais que là, je commence à moduler un tantinet la façon de le jouer. Parce que là, tu as nommé quelque chose qui est hyper important. Là. Le confinement qu'on vit, il est mondial. On a la chance de le vivre en Amérique du Nord.
Ouais.
Les gens, souvent, quand ils venaient me voir en conférence ou qu'ils m'écrivent, puis ils me disent, tu sais, Jérémy, j'aimerais ça faire ça. Puis je leur dis, mais qu'est-ce qui te manque? Puis ils me disent, bien, il me manque du temps. Et là, bordel, du temps, là, on en a. Et là où je commence à être impatient, c'est quand on me dit, bien, j'ai pas plus de temps, et quand je demande pourquoi, puis on me dit, bien, tu sais, la routine, et blablabla, puis combien d'heures tu passes sur ton fil Internet, sur ton fil Facebook, combien de temps tu passes à écouter les nouvelles? Tout ce temps-là où tu penses, où tu regardes, en fait, tout ce temps-là que tu te dépenses à regarder ton environnement, tu le passes pas à te regarder dans le miroir, puis à te demander, toi, t'es rendu où, puis tu t'en vas où, là? Alors, oui, l'empathie, honnêtement, mais l'empathie modérée maintenant. Je t'avouerais que si avant, j'avais tendance à écouter longuement une histoire, à la limite pour m'en imprégner, pour que la personne puisse s'en délester, je suis beaucoup plus rendu à l'étape où, écoute, on va prendre un 5 minutes ensemble juste pour voir où tu es rendu, là, voir si dans ta situation, tout est correct, tu es en sécurité. Puis à partir de là, bien, le coup de pied au derrière, il va falloir que tu te le donnes parce qu'il n'y a personne d'autre dans la maison qui va le faire. Et si tu ne te propulses pas dans ce qui se passe actuellement, bien, tu ne le feras jamais.
Ouais.
Alors, oui, l'empathie, ça, mais de l'action.
Patricia, de ton côté, parce que les gens, toi, les gens, c'est fou, là. Tu sais, les gens t'appellent, t'es à la radio, vont t'écrire, t'es dans une petite localité, t'es pas une animatrice dans un grand centre qui, après son émission, elle peut parler à personne, puis ça change absolument rien. C'est pas ça chez vous, là. C'est, la Oprah, c'est le titre qui te va parce que les gens, mon Dieu, qui collent après toi, on dirait que t'as du velcro dans les cheveux.
J'en ai plus!
Non, t'en as plus! Je pensais jamais que j'aurais les cheveux plus longs que toi un jour. J'ai mentionné. Ça prouve que tout évolue dans la vie. Hein?
Et voilà.
C'est le cas. Hey, juste avant, je veux saluer des gens parce que, bon, quelqu'un, Gabriel Gagnon, fascinant, ses invités. Linoud, merci. En effet, très enrichissant, ses partages. Bonsoir, Jérémy. On a énormément de gens qui nous écoutent ce soir. Alain Raïs, il faut penser à nos députés. Ah, il est député de Richmond-Tabasca au fédéral. Bravo. Marie-Josée Rabary, Philippe Girard, Karen Hansen de la Maison du cinéma, des gens qui vivent des choses pas faciles nécessairement. Alors, Isabelle Duchamp, Caroline Casse, Sonia Quirion qui dit « C'est le fun de vous voir tous les trois ensemble. Je vous connais tous séparément. Merci pour ce beau partage. » Sonia Quirion qui est très impliquée au Comptonal, entre autres, tu sais, des événements. On a appris aujourd'hui que Bouffe ton centre à Sherbrooke n'aurait pas lieu. Tu sais, logiquement, il n'y aura pas grand-chose qui va avoir lieu avant l'an prochain. Alors, j'ai une pensée pour ces gens-là. Annie Martel, Malika Bajaj qui est très, très impliquée partout. Sylvain Dubé, bonjour Sylvain, Manon Fournier. Alors, beaucoup de gens l'écoutent. Madame Desorcy a été coupée au montage. Ce n'est pas moi qui l'ai coupée. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe avec elle. Elle a manqué d'Internet, de toute évidence. Dommage. On va attendre qu'elle revienne, peut-être. Tu me disais, Jérémy, que les gens... quelles sont les réactions des gens, en fait, à tes publications? Parce que là, on a deux courants de pensée actuellement. Tu sais qu'il y a des gens que là, ça va bien aller, là, ils en ont soupé, ils sont écœurés. Ils veulent plus voir quoi que ce soit de positif. On dirait que ça les agresse à la limite. Là. Ce qui pourrait avoir l'air de quelque chose de positif, on dirait qu'ils se sentent un peu agressés. As-tu senti quelque chose dans ce sens-là ou t'attires les gens qui ont besoin d'autre chose?
Je t'avouerais qu'honnêtement, c'est 50-50. Hein? Quand je fais des lives, spontanément, les gens dans les fils de commentaires, les plus positifs vont s'exprimer. Ce qui est rare, habituellement, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Hein? Alors, c'est ces gens-là. Et en privé, par contre, là, je t'avouerai que les états d'âme sont beaucoup plus difficiles. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on voit juste plus la fin. Les communications actuellement sur la crise sont tellement pas claires. Les consignes ne le sont pas. Alors, on se couche le soir en se disant que ce qui va se passer le lendemain, en fait, on a une idée de ce qui va se passer le lendemain. Arrive le point de presse, tout bascule. Et les gens sont tellement dans l'attente de l'extérieur, sont tellement dépendants et qu'ils oublient de vivre le moment présent. je vais te faire une confidence, tu sais, le ça va bien aller, en toute honnêteté, j'en ai soupé moi aussi.
Là. OK. Par quoi on remplacerait ça?
Je sais pas, mais là, ça va bien aller, là, c'est comme remettre dans les mains du bon Dieu une situation, là. C'est comme se déresponsabiliser au complet.
Ouais.
C'est la pensée magique, là, tu sais, et ça, ben, plus ou moins pour moi. Ça va bien aller. Écoute, par contre, on le remplace, je le sais pas. À la limite, je vais bien aller. Faisons le choix de bien aller.
Oui. Ça... Oh, on a récupéré. Hey. Ça va bien aller, c'est le cas de dire. On a récupéré hey. Oprah.
J'ai changé d'endroit. Excusez-moi.
Non, mais c'est correct si tu n'as plus la force de pédaler pour l'Internet, Patricia, on comprend.
Je vois. Votre rebrancher l'ordinateur et j'ai la batterie de tape là, ça veut dire que je suis sur la base et je suis revenue dans mon bureau. Bon.
OK. Hey, je veux vous lire quelques messages. Roxane Bourgault qui nous écrit de Rimouski, ça sera une de nos invitées éventuellement, qui dirige un complexe hôtelier, des fois qui est toute seule. Je pense qu'elle peut coucher dans une chambre différente chaque soir. Non, sérieusement, ils servent de refuge pour le réseau de la santé des gens, je pense, du réseau de la santé. C'est incroyable ce qu'ils font, qui dit, bon, vous êtes tellement hâte, vous m'inspirez. Guy Massé, bonsoir, un ancien de chez Malo, 1990. Le monsieur, il n'était pas là dans ce temps-là. Isabelle Duchamp, ben oui, Jérémy, bon point, la compassion a ses limites. Certains auteurs parlent de compassion impitoyable. Mon Dieu, et avant que tu reviennes, Patricia, Jérémy disait que, et je pense que tu vas le rejoindre là-dessus, le « ça va bien aller » est un petit peu tanné de ça. Oui, parce que j'ai lu que toi aussi, tu étais tanné. Mais c'est drôle, Ginette Renaud nous a ramené une chanson. Mon Dieu, je la trouve bonne. C'est un espèce de verre de rêve. Et ça dépend, tu sais, écoute. Mais dans le sens où on dirait qu'on remet notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable. C'est un peu ce que tu disais, Jérémy.
Oui, ben c'est en plein ça.
C'est ça.
Et c'est ça dans la vie. Hein. Tu joues à la victime ou tu... Le responsibility, c'est ça. Peu importe, à un moment donné, des claques à la gueule, on va tout en avoir là. On en a eu avant, on en a là, puis on en aura après.
Ouais.
Tu choisis jamais l'intensité avec laquelle elle vient te chercher. Par contre, tu choisis comment tu y réponds. Et là, le ça va bien aller, ben c'est ça. C'est comme remettre dans les mains de quelque chose d'autre, qu'on ne voit pas, d'intangible, la suite des choses. Alors, c'est là où je te disais, on le remplace par quoi? Je ne le sais pas, mais je vais bien aller minimalement, là, si on se le disait, si on l'assumait, puis si on s'arrangeait pour se mettre en action.
Ça pourrait être quelque chose comme « je me charge de mon bonheur », là, tu sais, je me charge de mon bonheur, puis c'est pas une question d'argent, c'est pas, tu sais, on l'a dit d'entrée de jeu, on est vraiment chanceux d'avoir ce qu'on a, là, parce que ça pourrait nous arriver dans un autre pays, on est en Italie, en Espagne, tu sais, c'est une catastrophe, là, et on a énormément de liberté ici. Là-bas, le confinement, là, c'est pas un choix, là, tu sais, à un moment donné, ça te prend un permis pour aller faire l'épicerie, T'sais, on est hyper chanceux. On a des gouvernements très généreux. Ça, c'est une autre affaire qui, à un moment donné, ça ne pourra pas être éternel. Moi, ça fait 3 montants que je reçois là, d'aide fédérale. À chaque fois que je vois ça dans mon compte, je me dis, moi, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'accomplisse quelque chose. Il faut que je remplisse ma mission de vie parce que je suis payé. Là. Ouais, c'est un montant imposable, etc. Mais je suis payé actuellement et je me sens excessivement redevable. Alors, il ne faudra pas que ça devienne, tu sais, paye quelqu'un chez eux à rien faire. Si tu veux tuer quelqu'un, Félix Leclerc disait, paye-le chez eux à rien faire. Ou tu sais, alors ça, il y aura un danger à ça. Il y a une partie de la population pour qui ça devient vite de l'acquis. Alors, est-ce que c'est un peu notre rôle aussi de dire aux gens, hey, tu sais, OK, là, ça fait 2 mois, là, on comprend le choc, on comprend le désarroi, mais en même temps, il faut se prendre en main aussi. Là,
se responsabiliser face à son bonheur. C'est quelque chose que j'ai compris, là, à un moment donné. Oui, tu peux pleurer en petite boule, puis il faut le faire. Je veux dire, la santé mentale, on en parle beaucoup. Et je pense que le mouton, il faut qu'il sorte. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. On ne peut pas rester couché en petite boule indéfiniment parce qu'il n'y a rien qui va changer. Il n'y a personne qui va nous prendre la main, qui va venir cogner chez nous, qui va dire « Moi, je vais prendre ton bonheur en charge. » C'est faux. C'est des illusions. Il faut nous autres même se lever un matin et se regarder la face dans le miroir et se dire « T'en as-tu marre de ta situation? Bien, qui va la changer? Bien, c'est celui ou celle que tu vois dans le miroir. Et d'y aller, une heure à la fois, une demi-journée, puis de ne pas se mettre la pression. C'est ça qu'on est en train de virer fou. Tout le monde, là, ça partait dans le grand ménage, puis je veux dire, puis c'est correct, on épurait. Mais tout le monde a des... Tu sais, comme moi, là, je continue à travailler. Fait qu'est-ce que tu penses que je faisais la fin de semaine? Je faisais tout ce que je proposais à la radio. Hey, je t'ai rendu de même. Voyons, j'oubliais que mon train de vie, il n'était pas comme peut-être ceux qui sont en confinement arrêtés complètement.
Ben non. Puis écoute, toi, là, t'es à la radio. Moi, je me souviens d'avoir commenté l'actualité, bon, pendant des années, mais je me suis mis à co-animer l'émission du matin à l'été 2013, le 8 juillet, deux jours avant, un train explose et fait exploser tout un centre-ville. Pendant trois semaines, on n'a parlé que de ça. Ça ne m'est même pas arrivé à moi, mais je sortais des ondes à 9h le matin. J'étais en train d'onde à 5h30. J'étais épuisé complètement. J'imagine, là, il va falloir penser à nos gens à la radio aussi parce qu'ils ne parlent que de ça et parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air de les défendre, mais tout a un lien avec ça. Les sports sont annulés, les événements culturels. Pourquoi? C'est toujours à cause du virus. Et à un moment donné, je pense que c'est dur sur la morale quand on est une personnalité publique. Tu sais, c'est pas que je ne veux pas les plaindre, mais en même temps, c'est une réalité, ça.
Bien, c'est juste qu'à un moment donné, même, je disais à mon patron et à ma collègue, j'ai dit, je me sens à côté de mon corps. Je disais ça à ma psychologue il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je me sens pas dans mon corps. Je me sens pas ancrée. Je me sens à côté. Puis on dirait, je me regarde aller. C'est bizarre parce que mon rôle de vie, là, j'arrête pas de me poser, OK, qu'est-ce que les gens ont besoin? Faudrait-tu que je les fasse rire? Mais je ne peux pas faker! Je ne suis pas une animatrice qui va faire « OK, là, tout le monde, je ne peux pas faire ça. »
Mais tu fais quand même des... Tu sais, je veux dire, tu fais des choses pour changer les idées aux gens. Oui. Tu essaies plein d'affaires. Tu sais, tu as des émissions rétro, j'ai même vu, je ne sais pas comment ça a tourné, mais bon, le plus bel homme, on lance le concours du plus bel homme.
Attends pas là!
Non, c'est ça, ah. Là, les gens, aujourd'hui...
Hey! On ne peut plus... Puis ça, c'est une autre affaire. On marche sur des œufs. On essaye de faire des choses, puis on se fait ramasser. Puis là, j'étais là, oh, t'as peu, là. J'ai dit, là, les intentions étaient bonnes, mais là, c'était pas tant moi, là. Il y a eu du respect vis-à-vis moi. Mais là, la chicane a pris vis-à-vis ce concours-là. Dans les commentaires, il était rendu minuit le soir. Moi, là, j'avais parti ça. Il n'y avait pas de prix, là. C'était une affaire pour divertir les gens. Les gens m'envoyaient des photos de leur grand-papa, des beaux grands-papas. Tu sais, c'était... Là, les auditeurs me textaient. Mais là, j'ai une bédaine, j'ai entendu mon heure radio.
Ah non!
Là, calmez-vous, c'est un concours, c'est de face. Bon, on y va avec la face, mais là, fallait que je mette des règlements. Non, là, j'ai plus de plaisir du tout.
C'est devenu un règlement de compte, pratiquement. Mais...
Mais
les gens sont à humeur excessivement variable. Ça, moi, j'ai remarqué, tu sais, il y a des journées, je ne sais pas pourquoi, la pleine lune, peu importe, on dirait que là, les gens sont à fleur de peau, le lendemain, ça va mieux. Sentez-vous un peu ça, Jérémy, de ton côté?
Oui, bien, je t'avouerais que la température est pour beaucoup aussi actuellement. Hein? Oui.
Cette semaine, on voit, il fait beau, tu sais, il va faire chaud en fin de semaine. En tout cas, on va voir ce que ça va donner.
La température est bipolaire, puis on est déjà très affecté. Alors, à un moment donné, là, et puis moi qui suis sujet aux dépressions saisonnières, je t'avouerai que j'ai ressorti à la lampe de luminothérapie parce qu'à un moment donné, il commence à manquer de jus un peu.
Oui.
Puis ça se voit dans... Et c'est de jour en jour, mais des fois, d'heure en heure, hein, ça fluctue. La journée, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une énergie qui s'installe, on finit le soir, puis on n'est pas à la même place du tout. On n'a plus cette espèce de carapace-là. Moi, je le vis, j'ai la chance de le vivre avec ma femme puis mes deux enfants. Puis ici aussi, il faut se ménager. On a cette chance-là d'être les quatre ensemble. Et on se connaissait déjà beaucoup. On a toujours été très proches.
Oui, et ça, c'est pas oui, tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui était près de leurs enfants. Pour beaucoup, et je veux, on en a parlé dans notre rencontre de préparation ce midi, je veux rendre hommage à une catégorie de gens là, dans notre société, les ados. Parce que, écoute, moi, je l'ai dit, là, je vais le dire publiquement, là, si c'était arrivé quand j'avais 15 ans, cette épreuve-là, les consignes là, du premier ministre, pas sûr que le gars de la délinquante Casa les aurait écoutés, parce que j'avais vraiment besoin d'être avec mes amis, même si j'aime beaucoup mes parents, c'est pas eux autres que je voulais voir à 15 ans. J'étais tout le temps avec mes amis. D'ailleurs, je les salue, j'en ai vu plusieurs sur le fil, mes amis de l'école Jean Cousseau de Longueuil, et on s'écrit tous les jours, on a un groupe amis du secondaire, et j'ai 48 ans, ça vous donne une idée à quel point on est tricoté serré, on s'envoie des messages, puis on se voit 4-5 fois par année, mais là, on ne peut pas se voir. Mais tout ça pour dire qu'ils ont beaucoup de mérite, nos ados. Je les trouve hyper disciplinés. On les a un peu chicanés au début, là, mais nos 60 et plus étaient pas blancs comme neige non plus. Et nos ados, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il faut que l'école recommence à un moment donné. Ce n'est pas une question académique, c'est une question sociale. C'est une question de voir des gens. Et j'espère que le scénario sera pas retenu de les priver d'école ou l'école à distance à partir de septembre. S'il faut, une semaine sur deux, on en prend 15 dans la classe, puis les 15 autres la semaine suivante, au moins alterner d'une semaine à l'autre pour peut-être distancer, mais s'il vous plaît, permettez-leur de se voir parce que toute la semaine, cette semaine, j'ai vu des enfants. Moi, il y a deux écoles primaires près de chez nous. J'ai vu des enfants joyeux qui riaient, qui couraient dehors. On est vraiment rendu là. Puis j'ai vu des parents qui étaient vraiment contents de venir chercher leurs enfants aussi à la fin de la journée. Il y a même une mère qui avait fait une grosse pancarte. J'ai failli la photographier. C'était écrit « On s'est pas ennuyé du tout ». Alors, elle attendait ses enfants avec cette pancarte-là. Moi, j'ai trouvé ça. C'était du gros bonheur voir ça.
Oh là là.
Je suis sûr que les enfants ne s'étaient pas ennuyés de leurs parents non plus. Mais on apprend à vivre dans ces conditions-là. Alors, vos ados, vous avez beaucoup de mérite, vous êtes de bons parents, mais ils n'ont probablement pas trouvé ça facile là, depuis le début.
Moi, il y a une chose qui m'inquiète, si vous me le permettez.
Oui.
J'en parle, puis ça me trotte dans la tête, parce que je me revois... Mettons secondaire 3, 4, tu sais, là, je veux dire, je me suis rendue en secondaire 5, mais sur deux, trois années, des maths en 3, des de l'anglais en 4, du français en 7, en tout cas. Et moi, à cette époque-là, j'avais hâte d'avoir un ancrage, j'avais hâte de m'acheter une maison, d'avoir un chien, des fleurs et un enfant. C'était ça que j'avais besoin. Okay. Et j'ai peur. Ce qui m'inquiète, moi, au niveau de l'éducation, avec ce qui arrive, c'est... Si, mettons, les élèves du secondaire ne retournent pas, j'ai peur. Pour ceux et celles, mettons, qui sont en secondaire 4, mettons qu'ils s'en vont en secondaire 4, qui finalement, ils se sont trouvés une job, qui travaillent à temps plein, qui décident de dire, « Hey, là, ils ont goûté à l'argent », qui décident de mettre un plan au niveau de l'éducation de côté, parce que j'ai fait la même chose. Je m'étais dit, moi, après ça, je suis rentrée dans une shop, je m'étais dit, je ferai des études en je ne sais pas quoi, je ne suis jamais retournée à l'école. Et ça m'inquiète.
J'ai l'impression, si je peux te rassurer, le taux de chômage chez les 18-25 vont peut-être être à 30 %, là, parce qu'il est à 17 % actuellement globalement, puis je pense que c'est même plus que ça. Alors, on va beaucoup valoriser les études en disant de toute façon, là, pas sûr que tout le monde va avoir une job. Quand le taux de chômage est élevé, c'est toujours les jeunes qui écopent. Alors, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'incitatifs. Alors, si je peux reconnaître un mérite au gouvernement actuellement, c'est qu'on paye des formations en entreprise, on valorise quand même ça. Mais je comprends cette inquiétude-là. On écoutait des experts aujourd'hui dire juste le jeune qui a entendu aujourd'hui que peut-être que l'école réouvrira pas en septembre, ça peut le faire décrocher. T'sais. Alors, il va falloir
être... quelqu'un qui n'aime pas ça là, du non. tout, là, qui goûte à ça, de juste repenser. De dire « Oh, vas-tu? » Ça, j'espère qu'il va y avoir du soutien là-dessus.
C'est vrai,
tellement important, l'éducation. My God!
Oui, c'est puis toi, tu es très bien placé pour le savoir également. Jérémy, chez vous, les jeunes...
C'est différent. 13 et 16 ans, mon petit bonhomme de 13 ans, j'ai la chance d'avoir des jeunes qui honnêtement excellent à l'école, sont super bons. Fait que mon petit bonhomme de 13 ans, lui, en toute honnêteté, il s'emmerdait dans ses cours. Fait qu'actuellement, ben là, les profs envoient une charge de travail. Là, je pense qu'il a fini son livre d'histoire puis de science pour le reste de l'année. Là. Lui, c'est une bénédiction dans son cas parce qu'il peut aller à son rythme. Honnêtement, ça le raccroche.
Okay.
Puis socialiser à 13 ans, ben les jeux vidéo, c'est merveilleux. Ils sont tous en ligne. Hein? Et je pense qu'ils se parlent plus en ligne qu'ils se parlent en cours d'école. Fait que dans son cas, c'est pas trop difficile. Ma grande de 16 ans, elle, ben, avait rencontré un petit chum cet automne, puis ça faisait 6 mois. Puis elle est partie pour l'Allemagne en voyage scolaire. Elle est revenue. Le confinement a commencé 2 jours après. Fait qu'elle a eu le temps d'échanger un baiser avec le matin où elle retourne à l'école avant que je doive aller la rechercher. Et là, bien évidemment, c'est tout ce qui va avec. Secondaire 4, il y a le secondaire 5. Secondaire 4, honnêtement, les émotions, c'est très fort. Là.
Hey. Hey, mon Dieu, qu'on s'en rappelle! Hey. On s'en rappelle! C'est moi, j'avais... Si on m'avait privé de voir ma blonde... Non, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer ça. Écoute, c'était toute ma vie à un moment donné.
Ben oui, c'est ça, les premiers amours. Les...
Oui, c'est
ta
ça.
Ta vie, c'est ton temps de l'univers. C'est là!
C'est vrai. Puis on lit... Hey, on vous comprend, là, les ados. Hey, mon Dieu, que je voudrais pas être parent d'enfants de vos âges. Moi, je suis un vieux grand-père. Là. Moi, j'ai le beau rôle. Tu peux être bourré de crème glacée, je m'en vais, puis c'est pas grave. Là. Non, mais même tantôt, je suis allé marcher ce matin avec mon fils et mon petit-fils de 3 ans. Mon petit-fils s'assoit sur un banc et il tape sur le banc pour que je vienne m'asseoir à côté.
Oh!
Mais non!
C'est
mais oui, mais il y a 3 ans. Alors, ça, là, tu dis, ah oh, mon Dieu, puis tu peux même pas y expliquer ça. Tu sais, j'ai 3 ans, tu sais. Et ah, oh, que c'est. Puis là, il me dit, photo, parce qu'il veut qu'on se prenne en photo. Ben oui, on s'est fait prendre en photo, papy, il est 6 pieds en arrière. Et mon petit-fils se retournait tout le temps. Il disait, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais, c'est pas ça d'habitude. Alors, tu sais, il y a des choses comme ça qui déchirent. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a toujours pire. Ceux qui vivent peut-être la pire chose, c'est ceux qui ont des parents CHSLD, ils ne peuvent pas aller les voir. Jérémy, et là, le temps file, mais tu as vécu un deuil. Ton beau-père, ton beau-père est décédé, mais subitement, il y a quelques semaines, là.
Oui, Richard, t'es un solide gaillard de 67 ans. 67, oui. T'es un bonhomme costaud, un ancien policier, mais en forme, faisait du vélo, jamais arrêté de travailler. En fait, il avait l'impression que le jour où il arrêterait de travailler, justement, ça allait raccourcir son espérance de vie. Le mercredi soir, j'étais en live sur Facebook, puis je parlais avec la gang, on échangeait sur les moments golden buzzer, tu sais, les moments significatifs dans une vie, ce qui nous transforme, ce qui nous rend fiers.
C'est vrai.
Et Richard, même s'il a toujours été proche de ses filles, il n'était pas le genre à le dire. Et ce soir-là, même si d'habitude, il n'est jamais, honnêtement, il piochait sur un clavier. Richard n'a aucune habileté qu'un ordinateur. Mais ce soir-là, la vie a fait qu'il était derrière son clavier. Et lui a répondu que c'était la naissance de ses 2 filles, son plus beau moment. Ce qu'on ne savait pas, nous, c'est que le lendemain matin, à 7h moins quart, ma belle-mère nous appellerait pour nous dire que l'ambulance venait de partir avec le beau-père et qu'elle était convaincue qu'il ne reviendrait pas. Et ça a été le cas. Ça a été un infarctus. Il est tombé.
Foudroyant.
Il est resté conscient avec elle jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il faut savoir que mon beau-père vivait avec une peur des hôpitaux. Et une hantise, surtout, de devenir une charge. Tu sais, de vivre trop vieux, de devenir un fardeau pour ses enfants.
Ouais, là, ça n'a pas été le cas du tout.
En fait, il a... Tu sais, dans la vie, on croit ce qu'on veut.
Il a eu ce qu'il voulait, en fait. Ben, tu sais, c'est un peu une forme de programmation dans le sens où, regarde, il ne voulait pas être une charge, mais les dernières paroles qu'il a écrites, ça a été sur ton Facebook Live en disant que lui, c'est fait, plus beau moment, et ça a été terminé après.
Hey, j'ai la chair de...
Ouais, moi aussi, là. Ouais, moi aussi, là. Et j'avais écouté, tu avais fait une vidéo qui était très, très poignante. Mais là... T'sais, décédé dans les conditions qu'on connaît, sa femme n'est pas allée avec lui, elle est restée à la maison. Comment vous faites ça? Comment ça se fait? Allez-vous réconforter ta belle-mère?
Honnêtement, là, je peux-tu te dire que rendu là, la crise, je l'avais loin dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière.
Ouais, ouais.
Quand tout ça est arrivé, évidemment, la première chose que j'ai fait, puis tu sais, si moi j'aime braver, à la limite, les directives, ma femme n'est pas du tout de ce type-là, mais là, c'était son père, tu sais.
Ben oui.
Puis tu sais, l'ambulance venait de partir, Madeleine n'avait pas pu y aller avec. Quand je lui ai parlé, j'ai dit, tu fais quoi actuellement? Ben, dis-le, les ambulanciers sont partis, il faut que je désinfecte tout le plancher, il faut que je désinfecte. Je veux dire, elle, là, était sur le pilote automatique.
Ouais.
Sachant pas s'il était décédé ou non, quand ils sont partis, elle n'avait aucune nouvelle. Fait que c'est 3 heures plus tard qu'on l'a su. Fait qu'évidemment, Julie, ma femme, y est allée tout de suite. Ma belle-sœur qui habite Drummondville est descendue. T'sais, ils sont venus passer une semaine. Ils ont vécu chacun sur l'étage de la maison. Ils ne prenaient pas la même salle de bain. Ils mangeaient chacun à leur bout de table. Ils faisaient attention. Ils étaient là, mais il n'y avait pas de câlin. Il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas d'échange.
Dans le moment où tu en as le plus besoin. Dans le moment où tu en as le plus besoin.
Et voilà.
On lit des témoignages, là, ça rentre. Bon, Marie-Anne, je peux comprendre. Touchant, merci du témoignage. Et mon amie Isabelle qui dit « Je compatis avec Jérémy pour être en deuil moi-même. J'ose même pas imaginer avoir perdu mon mari dans la pandémie. Elle a perdu son mari l'an dernier, cancer. Mais au moins, au salon funéraire, on peut se prendre dans nos bras. On peut, tu sais, il y a une célébration, ce qu'il n'y a probablement pas eu encore et qu'il n'y aura pas nécessairement.
Ben. » Ben, on a eu un hybride, je t'avouerai honnêtement, je ne ferai pas de publicité, je ne les nommerai pas, mais le salon où on est allé nous a offert quelque chose qui est une formule qu'on voyait aux États-Unis, qu'on pouvait trouver à la limite un peu bizarre en temps normal, mais en temps de crise, ça prend son sens. Il faut savoir que mon beau-père a été dans la police toute sa vie. C'est 30 ans qu'il a donné à la police. C'est un bonhomme qui était connu dans le village ici.
Ouais.
Alors, quand la nouvelle s'est propagée, puis c'est une famille nombreuse aussi, ce que le salon nous a permis, c'est de nous recueillir les 7, c'est-à-dire ma petite famille, ma belle-sœur, mon beau-frère, ma belle-mère, tout près de l'urne, dans une salle. Et après ça, on a pu sortir à l'extérieur, sur le pavé, avec l'urne, un cadre de mon beau-père. Et je l'ai filmé, tu sais, parce que c'était trop, mais ça a duré 25 minutes où les voitures sont passées à tour de rôle, s'arrêtaient devant l'urne, baissaient la fenêtre, nous offraient leur sympathie.
C'est incroyable.
Et repartaient. Non, fais pas ça, Pat, ça me rend émotif.
Ouais, mais c'est vraiment touchant ce que tu décris là. Puis je l'ai vu dans d'autres circonstances, des fois plus joyeuses, mettons 50e anniversaire de mariage.
Oui.
Les mariés sont assis sur la pelouse et la famille défile en voiture en klaxonnant. On a-tu l'instinct quand même, hein, on va célébrer, mais d'une autre façon. Que ce soit un décès, que ce soit un anniversaire de mariage. Et les gens qui souhaitent sincère sympathie parce que tout le monde n'était pas au courant de ça. Mais c'est mon Dieu, que c'est incroyable. Puis, tu sais, on lit des témoignages de gens qui disent « Ma mère est hospitalisée, je ne peux pas aller la voir, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas... » C'est peut-être le pire de cette crise-là. En terminant, t'allais dire, Jérémy, je t'ai coupé.
Bien, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, tu sais, et là, à la maison, peu importe où on est, là, dans quel état on est, puis évidemment, tu sais, les gens qui disent, ben, tu sais, je ne peux pas aller voir mes parents, je peux pas. Ben, ça, c'est des points sur lesquels on n'a aucun ancrage. Là où vous avez une responsabilité, puis moi, tu sais, dans toutes mes conférences, puis c'est ce que je traîne depuis le début, je leur dis toujours aux gens, j'allais à toute fin, là, quand vous allez être assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sous vos genoux, puis qui vont vous regarder tout droit dans les yeux, puis ils vont vous dire « Grand-papa, grand-maman, parle-moi de ta vie, tu sais, parle-moi de toi. » Puis cet horizon-là, je le rapproche maintenant. La crise, elle est mondiale. La crise, elle est historique. Et chacun, à notre façon, avec toutes les bibittes qu'on a puis les restrictions qu'on a, on a juste une décision à prendre, hein, puis c'est de choisir quelle histoire, comment nous, on va raconter à nos petits-enfants le moment venu, comment on l'a traversé, cette crise-là. Est-ce qu'on va juste l'avoir traversé sur le pilote automatique en écoutant la télé, puis à la limite, dans 10 ans, on s'en souviendra même plus parce que ça va être banal, ou on va s'en être servi pour finalement se donner le coup de pied au derrière, là où il le faut, puis donner un sens aux prochaines années.
Ouais.
On a le temps de le faire, on a la responsabilité de le faire.
C'est vrai, je suis d'accord avec ça. En tout cas, il y a une chose est sûre, si on pensait pas être certain d'avoir quelque chose à raconter à nos petits-enfants un jour, là, on va avoir quelque chose à raconter, c'est sûr. Mais on va tous avoir notre propre version, comme des gens qui ont vécu la guerre. Pour eux, c'était pas tant la guerre comme la pauvreté que ça avait engendré à un moment donné, ou l'espèce de rationnement en temps de guerre, etc. On pourra dire qu'on a fait la file devant des épiceries, qu'on s'est lavé les mains 18 fois par jour. Mais c'est pas ce qu'on va retenir de ça. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Patricia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Eh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que mes cheveux repoussent? Non, non.
Ah, ben ça, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ça va
non,
te traîner.
Non. C'est juste parce que je gèle. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Peut-être d'arrêter de me mettre de la pression parce qu'on dirait là que je me couche le soir et je veux me réveiller avec une idée. Une nouvelle idée, on dirait plus que je veux ça, moins que j'y arrive. Tu sais, le côté
trop,
créatif.
Trop de pression.
Fait que là, je veux juste comme respire. Mon Dieu! Ça se peut que tu n'aies pas d'idée. Pendant 3 jours, tout le monde est ralenti, là. Ça reviendra bien à un moment donné. C'est juste ça que je me souhaite. Parce que j'écoutais Jérémy tantôt, puis il m'a fait allumer, justement, bon, quand il parlait de son beau-père, et je réalisais que j'ai vécu ça l'année passée avec les funérailles de ma mère, oui. Que j'écoutais à distance.
À distance, parce que c'était au Honduras.
Sur Facebook, sur les télévisions, je ne pouvais pas y aller parce qu'eux autres, ils... en tout cas.
Faut dire que tu es allée avant parce qu'elle avait une maladie incurable, ta mère.
Oui, c'est un cancer de la langue.
Alors,
oui,
c'est ça. Alors, tu es allée, et il faut dire qu'au Honduras, ta mère, c'est une immense vedette. J'exagère pas, là. C'est vraiment quelqu'un qui était adulé et c'était à la limite de funérailles nationales, là, dans son cas.
Oh oui, c'était dans la rue, le cercueil dans une boîte de pick-up avec la fanfare en arrière. C'était. Mais moi, je regardais ça dans mon téléphone. J'étais là. Ouais. Les funérailles de ma mère. Là, j'étais là.
C'est vrai.
C'est irréel, t'es sur ton divan, tu pleures, il n'y a pas de salon, il n'y a pas... Mais en même temps, tu te dis, justement, on se rattache, bien, j'ai eu la chance qu'elle décide de ne pas interrompre sa grossesse quand plusieurs lui disaient de le faire, dont mon propre père, tu sais, père biologique. Fait que je me dis, je suis chanceuse, je vis, regardez, qu'est-ce qu'on vient de vivre là, là.
Ouais, c'est vrai. Et c'est hallucinant parce que quand on voit des photos de ta mère, qui est une chanteuse poétesse, qui est une artiste, mon Dieu, c'est un copier-coller. T'es vraiment pareil comme ta mère. Tu ressembles énormément à ta mère, c'est hallucinant que tu n'avais même pas connu, là. Les gènes, c'est fort quand même.
C'est très fort.
C'est vraiment fort. Puis ta mère, j'exagère pas, je ne sais pas à qui on peut la comparer au Québec, mais c'est une grande vedette là-bas.
Oh oui, vraiment. Écoute, ils font des études. Là. Elle a été exposée dans une grosse université là-bas. C'est des jeunes, là, des jeunes qui allaient lui rendre hommage parce qu'elle, c'est au niveau vraiment de... Elle s'est battue tellement pour les droits des femmes. Elle s'est fait tabou portant parce qu'il la traitait de Juana la Loca. Parce qu'elle, elle défendait justement les femmes qui se font violer, la vente d'enfants aux Noirs. Puis ça, là, c'est le plus bel héritage qu'elle m'aura donné. C'est cette envie de se battre pour ce quoi on croit profondément.
Ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui te souhaite une carrière avec Elvis Crespo. Je comprends pas. Ça doit avoir des liens avec les duos que tu fais sur l'application Smule ou Smule, je sais pas quoi, parce que tu chantes, là. Toi, tu chantes comme une vraie folle, t'arrêtes jamais. Tu chantes en duo, en trio.
Ça a remplacé la boisson, ça, je te dirais. Ça
c'est la boisson.
Même. Non, mais j'avais plus le temps de chanter. Et là, j'ai décidé que je prends le temps. J'ai enlevé toutes mes notifications parce que je ne peux pas suivre. C'est du karaoké. Là, les notifications, ça rentrait. Puis
je
chantais mes chansons. Fait que j'ai tout enlevé, puis ça, bizarrement, mon stress est parti parce que j'ai aucune idée. J'ai-tu des messages? Il faut vraiment que j'aille voir. Mais j'ai plus, c'est plus marqué, là, 28 rouge, en rouge. J'ai plus de notification! Alléluia!
C'est... Bien, si le confinement amenait ça, je suis très, très content pour toi. Jérémy, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Écoute, à chaque matin, je l'écris dans mon cahier. Les deux livres que j'ai eu la chance, auxquels j'ai eu la chance, en fait, de donner vie, je veux les faire voyager. C'est le bon moment pour le faire.
Okay.
Et je travaille actuellement sur un programme de formation en ligne que je vais lancer cet automne. L'an passé, je lançais mes livres. Là, je vais lancer le programme « Sortir de l'ombre et briller ». En fait, « Trouver son étoile ». Ouais, ça va s'appeler « Trouver son étoile afin de sortir de l'ombre et briller ». Les modules sont là, tout est là. Il me reste à mettre la machine derrière et me lancer. Je veux dire, j'ai besoin, moi, de voir. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'échanger. Je suis comme un lion en cage en ce moment. T'sais, les lives du mercredi sont mes exutoires. Alors, je remercie tous ceux qui me permettent de les vivre sans être tout seul.
Alors, on peut t'écouter. On va sur ton Facebook perso, Jérémy Parent, les mercredis. L'heure n'est pas certaine encore. Là, c'est présentement, c'était à 19h.
C'était 19h. La semaine prochaine, ce sera 13h, heure du Québec, parce que j'ai la chance de commencer à faire une petite percée du côté de l'autre continent et les gens me demandaient de pouvoir intervenir en live. Je verrai après ça l'heure. Et la dernière chose que je vais me souhaiter, honnêtement, elle n'était pas dans mon cahier jusqu'à ce qu'on ait cette entrevue-là ce soir.
Oh.
Mais je me souhaite, mon cher ami, en 2021, d'être sur une scène avec Pat. Afin qu'on vive un moment ensemble, elle et moi, ça va être réglé. Incroyable.
C'est réglé. À ton lancement, Jérémy, il y avait Prisquirion qui avait chanté, qui vient d'accoucher d'ailleurs, en plein COVID. Alors, on la salue. Alors, Patricia Desorciers ne sera pas en congé de maternité, je te l'annonce. À plus de chances d'être grand-mère, elle, qu'autre chose éventuellement. Alors,
Mon filtre.
L'invitation est lancée, puis tu sais, c'est quoi mon souhait, le mien, ça va être que cette émission-là revive, mais en direct, qu'on soit à un moment donné dans la même salle, parce que de la radio, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas vrai que ça se passe chacun chez nous, je crois pas à ça. J'ai d'ex-collègues qui disent « Ah ben moi, je veux plus jamais revenir en studio, je suis bien chez nous. » Non, la complicité, c'est là qu'elle se dessine, c'est en direct, on l'a établi parce qu'on se connaît aussi, mais de la vraie radio, ça se fait en studio. Et ça, c'est sûr et certain, je veux que cette émission perdure, mais qu'on puisse le faire devant public aussi, éventuellement. Je ne sais pas à quelle distance, mais oui, ça, c'était sur mon cadre de vision en novembre 2019, cette émission-là. Et le confinement, ça, je l'ai souvent dit, ça a donné que j'ai pu mettre en place en 10 jours, ce qui aurait peut-être pris 3-4 mois à travers les opérations courantes. Mais là, du temps, on n'a que ça, mais il faut le faire fructifier, il faut s'en servir de la bonne façon. Vous le faites tous les deux, je vous félicite. Je vous remercie de votre présence ici ce soir. Les messages sont entrés, vous irez voir ça, puis c'était très impressionnant. Ça a été vraiment un beau moment.
C'est un moment wow!
Oui, c'est vrai, c'est un moment wow! Et signe qu'il y a de l'espoir, le bingo est revenu à Quaticook. Bingo Signe FM, moi j'ai acheté mes cartes la semaine dernière, j'ai joué au bingo. Alors, bravo, et il y avait énormément de gens. Alors, on se raccroche à des petites choses qui nous rendaient heureux. Et ça fonctionnait tellement bien chez vous. La radio coopérative Signe FM, qui est un modèle, un vrai modèle, un modèle d'affaires viable. Et ils avaient besoin du bingo et c'est revenu. Je suis vraiment très, très, très content pour vous parce que c'est une belle radio. Je trouve que c'est tellement bon ce que vous faites.
Et merci, Jérémy. Tellement. Hey, je me re... Bon, pour moi, on a fait des armes parallèles en quelque part.
Wow! C'est bon. Merci et vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Voyez comment c'est inspirant. Présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. C'est ça. Bienvenue chez Malo. Bye-bye.
On t'aime, Jannick. Bye-bye.
Merci.
Bye.
Bye.